Le titre de mon message aujourd'hui, La porte étroite. Nous allons lire ensemble dans Luc, le chapitre 13, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ils ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » La porte étroite. La porte du renoncement à soi-même. La porte où l'on s'abandonne entre les mains de Dieu, où qu'on abandonne notre moi, où que l'on met de côté la recherche de la satisfaction personnelle pour rechercher la satisfaction de Christ. La porte étroite, où l'on met de côté notre vie pour recevoir la vie de Christ. Toute satisfaction personnelle, que ce soit monétaire, au niveau de la carrière, au niveau de notre vie sociale, de notre vie sportive, Christ nous demande de mettre ça de côté, de le mettre lui en premier, de chercher premièrement le royaume des cieux, de mettre toutes ces choses en arrière et de le suivre. Et c'est ça la porte étroite. La porte étroite, ça parle d'abandonner plein de choses que nous avons sur les épaules comme fardeau, comme bagage de vie, d'abandonner ces choses, de les laisser de côté pour suivre Christ. Et Jésus nous dit bien, plusieurs essaieront, beaucoup chercheront à entrer, ils vont essayer d'y entrer, ils n'en seront pas capables. Ils diront, ouvre-nous Seigneur, nous avons mangé à ton pain, à ton sang, et nous avons mangé dans ta présence, tu as enseigné dans nos églises. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Remarquez, le Seigneur leur dit quatre choses. Il dit, premièrement, je ne vous connais pas. Deuxièmement, il dit, hors de mon royaume. Troisièmement, il les appelle des ouvriers d'iniquité. Puis quatrièmement, il leur dit, vous irez là où il y a des remords et des grincements de dents. Le Seigneur parle bien du salut, de la vie éternelle. Il leur dit, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entré par la porte étroite. Pourtant, ils ont eu une relation avec Jésus. Pourtant, ils l'ont connu. Ils ont entendu de lui. Pourtant, c'était des ouvriers. Il les appelle des ouvriers. Mais des ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Hors du royaume. Le royaume de Dieu est le royaume de l'Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Or, l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité, qui toujours essaie de se faire entendre aux chrétiens. Et particulièrement aux chrétiens du groupe Jésus et moi. Jésus est mon moi. Jésus est ma satisfaction personnelle. Jésus est mon ambition personnelle. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, cherche à se faire entendre et il dit constamment, renonce à toi-même. Tu ne peux pas servir Jésus et servir toi. Il le répète constamment, renonce à toi-même. Il nous répète à tous, renonce à toi-même. Aux choses de ce monde, au plaisir des richesses, prends ta croix et suis ton sauveur. Le Saint-Esprit rappelle toujours la même chose. Mais ces chrétiens de Jésus et moi lui font la sourde oreille. Ils refusent d'entendre, d'écouter. La parole nous dit que l'entêtement, la résistance, c'est aussi pire que l'idolâtrie. S'entêter à ne pas écouter, à ne pas entendre la voix de l'Esprit, ça devient de l'idolâtrie. c'est de l'iniquité aux yeux de Dieu. Ils ne veulent pas de ce message trop dur, trop étroit, trop resserré. Ils n'en veulent plus. Ils se donnent des foules de docteurs, des docteurs qui leur plaisent, qui disent des choses agréables. Attention, la parole est claire. Vous êtes en grave danger. Vous qui suivez les docteurs selon vos cœurs, selon vos plaisirs à vous, qui ne voulez plus du message simple de l'Évangile, du renoncement, de la porte étroite. Plusieurs autres, ça dit, ils nous ont enseigné, tu as enseigné dans nos rues, dans nos églises. On a écouté ta bonne doctrine, Seigneur. Mais ça ne suffit pas juste d'écouter non plus. Ça ne suffit pas juste d'entendre. Encore faut-il prendre action, se dépouiller de soi, se départir du moi et suivre Christ. Prendre notre position d'étranger, de voyageur sur cette terre, de citoyen des cieux et non des citoyens de la terre, pour suivre Christ. Quand le Seigneur leur dit, « Je ne vous connais pas. » Pourquoi? Il leur dit, « Je ne vous connais pas. » Jean chapitre 10, versets 26 et 27. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je connais mes brebis. » Là, le Seigneur leur dit, « Je ne vous connais pas, donc vous n'êtes pas de mes brebis. » Pourquoi vous n'êtes pas de mes brebis? Il dit, explique ici. Premièrement, vous ne croyez pas à mes paroles. Vous ne prenez pas ma parole au sérieux, vous ne l'écoutez pas. Deuxièmement, vous ne me suivez pas. Vous ne suivez pas les directives du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité. Vous n'entendez pas et vous n'obéissez pas à l'Esprit de vérité. Vous faites la dure oreille. Vous refusez de marcher dans le renoncement, le dépouillement de soi. Vous voulez persister, vous vous entêtez à vivre votre propre vie, au lieu de vivre la vie que Jésus a préparée pour vous. Vous résistez constamment à la voix de l'Esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit, « Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas mes brebis. » Parce que mes brebis, ils entendent la voix de mon Esprit et ils me suivent. Vous, vous suivez votre propre voie, le chemin du moi. Vous avez mis votre moi en premier, votre satisfaction personnelle en premier. Même si vous allez dans les églises, que vous fréquentez les églises, que vous soutenez vos églises, que vous êtes né de nouveau, cela ne suffit pas. Il faut suivre Jésus, entendre la voix de l'Esprit et le suivre. La même chose dans Matthieu chapitre 25, Jésus dit, « Vierge folle, vierge, parce que vous avez été entrée en contact avec l'Évangile, vous avez reçu des bénéfices de l'Évangile, vous avez été purifiée par l'Évangile, mais vous êtes restée folle. » Folle, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de sens. Vous n'avez pas de compréhension de la réelle portée du message de l'Esprit. Vous ne comprenez pas la dimension spirituelle, la dimension d'abandon et de renoncement à soi pour suivre Christ et recevoir de Christ non seulement la vie, mais la direction, la sagesse, l'intelligence. Romains 8, 14 nous dit clairement, « Ceux qui sont dirigés par l'Esprit sont fils de Dieu. » Être dirigé par l'Esprit, c'est être une brebis. Refuser d'être dirigé par l'Esprit, continuer à suivre notre moi, notre chair, notre satisfaction personnelle, ce n'est pas être brebis de Dieu, être brebis de Christ. Ce n'est pas être un fils de Dieu. Nous ne lui appartenons pas si nous résistons à l'Esprit. La parole est claire. Suivre l'Esprit, entendre la voix de l'Esprit, cela ne veut pas dire nécessairement d'être flayé, d'entendre des voix, d'avoir des impressions prophétiques, de marcher selon des songes, des visions. C'est pas ça que ça veut dire, écouter l'Esprit. Écouter l'Esprit, c'est bien plus au niveau du cœur. C'est quelque chose qui se situe à l'intérieur de nous. C'est le renoncement à soi-même, l'Esprit de vérité qui nous entraîne à renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Plusieurs entendent des voix, reçoivent des songes et des visions dans l'Église, mais ne sont pas inspirés par l'Esprit-Saint. Dans Jérémie chapitre 23, versets 25 à 32, le prophète Jérémie a été confronté à la même chose de son temps, et la même chose se répète aujourd'hui. Jérémie 23, à partir du verset 25, « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mensonge, disant, « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe! » Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? prophétiser la tromperie de leur cœur. Remarquez, la tromperie de leur cœur. Tout tourne autour d'eux. Moi, mes visions, mes songes, ma gloire personnelle, mon ministère, toutes ces choses-là déplaisent au plus haut point à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit à renoncer à nous-mêmes et à recevoir de lui la direction. Jérémie continue au verset 27. « Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qu'ils racontent et qu'ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. La même chose se répète encore aujourd'hui. Plusieurs se disent, être conduits dans l'esprit, sont dans le mouvement de l'esprit. Ils reçoivent des songes, ils ont des visions, ils ont des paroles, ça sort de leur bouche constamment. Mais est-ce vraiment le Saint-Esprit? Il faut sonder, il faut discerner. Quand cela tourne autour de la satisfaction du moi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si quelqu'un aurait des grandes visions, des grandes révélations, ça peut simplement provenir de son propre cœur. C'est un danger. Il faut faire attention. Dieu, oui, Dieu parle par des songes et des visions. Oui, l'Esprit de Dieu peut nous communiquer des voix, nous parler, donner des impressions prophétiques. Mais il faut s'assurer que cela est bien du Saint-Esprit. Selon l'Esprit de vérité, il faut tout vérifier avec le standard de la parole. Est-ce qu'on reste dans les normes, dans les bornes fixées par la parole de Dieu, par l'Écriture? C'est très important de rester dans ces bornes-là, de ne pas aller au-delà, de rester dans l'Esprit de vérité. Il y a beaucoup d'imitations, d'usurpations, de tromperies, de mensonges qui se fait parmi les chrétiens. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un dise des paroles, rapporte des choses, ait des révélations, pour qu'automatiquement on pense que ça vient du Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'agissait pas de cette manière-là. Quand une femme s'est mise à le suivre, lorsqu'il était allé prêcher l'Évangile, et que cette femme s'est mise à dire « Oh, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Cette femme a été pendant plusieurs jours à suivre Paul et à dire ces choses-là. L'apôtre Paul a reconnu que cette femme, qui était supposément une grande évangéliste, qui avait un don de prophétie supposément, que ce n'était pas de Dieu, que ce don-là ne venait pas de Dieu, que c'était de la divination. Acte 16, à partir du verset 16. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. » Je t'ordonne de sortir d'elle, et il sortit alors même. Il y avait un esprit de divination dans cette femme. Remarquez les paroles. Est-ce qu'elle disait des mauvaises choses? Non. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait semblait être la vérité. Il ne faut pas juste s'attarder aux mots. Il faut toujours s'attarder à l'esprit qui est derrière. Pourquoi disait-elle ça? Paul a reconnu que l'esprit qui était derrière ça, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que cela attirait l'attention sur elle-même, sur le don de divination qu'elle avait, et non pas sur le salut, sur les hommes de Dieu qui étaient là. Ça amenait la gloire sur elle. Elle aurait pu dire après, « C'est moi qui vous l'ai dit, c'est moi qui vous ai dit cela. » Et ça donnait la gloire, et non pas à Christ, mais ça donnait la gloire au mauvais esprit qui était dans cette femme, l'esprit de divination. Il faut faire très attention partout que le mensonge est mêlé à la vérité, il y a danger de la présence d'esprits imitateurs, d'esprits trompeurs, de faux semblants. Pourquoi? Parce que lorsque le mensonge se mêle à la vérité, cela ouvre une porte à l'ennemi. Il y a beaucoup de groupes charismatiques où, qui mêlent le mensonge à la vérité, qui ne se tiennent pas dans la vérité. Cela ouvre des portes à l'ennemi. Cela permet à des mauvais esprits de venir et de parler. Dans cela, c'est plus juste des sons, des révélations qui viennent de son propre, de leur propre cœur, mais il y a aussi la présence de mauvais esprits qui s'infiltrent là-dedans, d'esprits de divination. Attention, tout ce qui ne tourne pas la gloire vers Christ seul, ce n'est pas du Saint-Esprit. On ne peut pas prier Christ et prier Marie en même temps, ou prier un autre saint. On ne peut pas glorifier Christ et glorifier Marie en même temps. Cela est faux. Cela ne vient pas de Dieu. Ces gens n'ont rien compris à l'Esprit de Dieu qui ne glorifie que Christ seul. Il faut passer par la porte étroite. La porte large mène à la perdition. Seule la porte étroite, la porte qui nous amène à Christ seul, qui nous amène à renoncer à nous-mêmes et à toutes nos idoles, et à toute notre façon de penser, de voir les choses, et à toute notre gloire personnelle, y compris les bénéfices que le diable a pu donner aux hommes ici-bas, comme cet esprit de divination, par exemple, qui produisait un grand profit à ses maîtres. Cela peut venir directement du diable. Il faut renoncer à ces choses. C'est de l'idolâtrie. C'est interdit pour l'enfant de Dieu de jouer, de communier à la table du diable et de communier à la table de Christ. On ne peut pas communier à la table du diable et à la table de Christ en même temps. Il faut faire un choix et suivre Christ seulement. Renoncer à nous-mêmes et renoncer à tout ce qui est gloire humaine et gloire du diable pour suivre Christ seul. La tradition religieuse amène facilement les gens à se tromper soi-même. La tradition, les commandements d'hommes font obstacle à la parole de Dieu, viennent s'opposer à la parole de vérité. Alors, à un moment donné, il faut choisir entre la vérité et la tradition. Nous n'avons pas le choix. Il faut renoncer à toute tradition humaine pour suivre et choisir la parole de Christ seulement. C'est ça la porte étroite. Nous n'avons pas le choix. Christ ne nous a pas laissé le choix. Tu veux être sauvé? C'est bien, viens. La porte est ouverte, la grâce est là, abondante. Mais passe par la porte étroite. Il y a un trou par lequel nous devons passer et abandonner tout ce qui est du moi, du monde et qui appartient au diable. Jean chapitre 10, versets 3 à 4. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il y a un élément supplémentaire qui est donné ici. Non seulement les brebis connaissent la voix de Christ, la voix du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et elles suivent Christ, qui est le berger. Christ est le seul berger en passant. Il n'y a pas d'autre berger. Ce n'est pas un pape, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évêque. C'est Christ. L'Esprit de vérité enseigne chaque croyant et nous sommes appelés à suivre Christ au travers du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui habite en chaque croyant. Nous n'avons pas besoin de suivre un homme. C'est à Christ que nous devons des comptes. Mais il y a un autre élément qui est ajouté ici. Ils ne suivront point un étranger. Qu'est-ce qui veut dire un étranger? Quelqu'un qui n'est pas Christ. Il faut bien savoir que quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous faisons partie d'un nouveau royaume. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous devenons des étrangers au monde. Le monde devient étranger à nous et nous devenons des étrangers au monde. Et du même coup, nous devenons amis de Dieu. Nous devenons des proches, membres de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Mais du même coup, nous devenons étrangers avec le monde. Nous n'avons pas le choix. La nouvelle naissance nous entraîne à la séparation d'avec le monde, non pas à se séparer du monde, non pas, comme Jésus disait dans Jean chapitre 17, les ôter du monde. Il ne s'agit pas de se retirer du monde. Ce n'est pas cela que l'apôtre Paul parle ou que Jésus parle. C'est se retirer, c'est se séparer de l'esprit du monde. L'esprit qui agite le monde, qui anime le monde, qui est un esprit de convoitise, basé sur l'esprit de Satan lui-même. Le prince de ce monde, c'est Satan. C'est un esprit où tout tourne autour de moi. C'est ça l'esprit de convoitise. Tout tourne autour de moi. Et il faut se séparer de cet esprit-là. Jésus ne nous a jamais appelés à se retirer du monde et aller vivre dans des monastères, dans des couvents, dans des grottes. Non, Dieu nous a appelés à rester dans le monde, mais à être différents du monde. Apporter une semence différente du monde, un esprit, une pensée différente du monde. Ne plus avoir la pensée de ce siècle, mais la pensée de Christ. La pensée de ce siècle, c'est tout tourne autour de moi. C'est la satisfaction du moi qui pense en premier. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers. Il faut prendre cette position d'étranger et de voyageur sur cette terre. Nous ne sommes pas dans notre vrai pays. Nous sommes juste de passage ici-bas. Et nous avons à être ambassadeurs d'un autre pays. À parler d'un autre pays, à penser d'un autre pays. Parce que notre pensée à nous tourne autour de la satisfaction de Christ. C'est d'obéir à notre Sauveur et à notre Maître, qui est Jésus-Christ, et non plus nous-mêmes. C'est ça qu'il dit, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Convoitises charnelles, c'est quoi la convoitise? C'est tout ce qui va se satisfaire moi-même. Tout ce qui se satisfait mon moi. C'est ça la convoitise. Ça, c'est la pensée du monde. Satisfaire le moi. Tandis que la pensée chrétienne, c'est satisfaire Christ. Satisfaire notre Dieu, notre Sauveur. C'est marcher selon sa volonté. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi cela demande de nous une séparation, une mise de côté d'avec l'esprit du monde, d'avec la convoitise, tout ce qui est le moi, la satisfaction du moi, le renoncement à soi. C'est ça la porte étroite. Il faut passer par là. Il faut abandonner, renoncer à ces choses-là. 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les brebis ne suivront pas un étranger. Les vraies brebis. Ceux qui ne sont pas ces brebis, oh, eux vont suivre des étrangers. Mais les vraies brebis ne suivront pas des jougs étrangers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux. Sortez de l'esprit de ce monde. Non pas sortir du monde comme tel, mais sortir de l'esprit de ce monde. De l'amitié purement charnelle, de cette pensée purement égoïste, cette pensée de convoitise et d'orgueil personnel, d'ambition personnelle, de profit de destinée personnelle. Toutes ces choses-là sont contraires à l'Esprit de Dieu. s'est passé en dehors de la porte. La porte est étroite. La porte nous indique de renoncer à ces choses, d'abandonner ces choses-là qui nous empêchent de goûter Christ. C'est la suite logique de la nouvelle naissance. Beaucoup de groupes évangéliques ont une bonne position sur la nouvelle naissance. Ils enseignent avec vérité la nouvelle naissance. Oui, il faut accepter Jésus dans son cœur. C'est la base de tout, la nouvelle naissance. Mais il y a une suite logique à cette nouvelle naissance-là. Ça ne suffit pas d'accepter Jésus dans son cœur. Il faut encore le suivre. Et comment le suivre? Pas recommencer à vivre pour moi, dans ses ambitions personnelles et à gonfler son moi. C'est le renoncement à soi. La suite logique de la nouvelle naissance, la nouvelle naissance qui est dire oui à Jésus, oui à Jésus, oui à sa grâce, oui à tout son salut, à sa guérison, à tout ce qu'il nous donne. Oui, c'est bon de dire oui à Jésus. Il y a aussi le non à soi-même, qui fait partie intégrante, qui est en fait la porte pour vraiment goûter le salut de Jésus. Dire non à soi-même, à tous les jours. Le suivre pas à pas, sous sa gouverne. Titre chapitre 2, le verset 11. Les deux aspects de la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est le oui. Oui, Seigneur, je te veux dans mon cœur. Oui, viens. Oui, je reçois toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous. C'est le côté positif du salut. Mais il y a aussi le côté négatif. Ce que beaucoup de chrétiens ne veulent plus entendre. Le non à soi-même. La porte étroite. Verset 12. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu nous enseigne non seulement le oui à tout ce que Jésus a fait à la croix, mais elle nous enseigne aussi le non à soi-même. Et cela, c'est à tous les jours. À tous les jours, le Saint-Esprit nous parle. À tous les jours, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, loin de la satisfaction du moi, pour satisfaire Christ, le berger, l'époux, le maître bien-aimé. Et nous n'avons pas le choix. Il faut délaisser tous ces bagages, les bagages que le monde, la pensée que le monde veut mettre sur nous. Parce que le monde met une obligation, il met des fardeaux sur nous. Ah, il faut que tu aies une bonne carrière. Il faut que tu fasses beaucoup d'argent. Il faut que tu aies une femme et des enfants. Toute la manière de penser qui est dans le monde est mise et jetée sur les chrétiens pour essayer d'emmener les chrétiens à se conformer au monde. Et l'Esprit de Dieu dit non. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Comme ça dit dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, au verset 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pas se conformer à l'esprit du siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui vient du Saint-Esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de l'Esprit? Ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne faut pas se laisser conformer. Le diable essaie de mettre des fardeaux sur nous. Le monde essaie de mettre des fardeaux sur nous pour qu'on soit comme le monde. Dieu dit non, passez par la porte étroite. J'ai beaucoup mieux pour vous. Il faut suivre Christ. Christ a ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Il y a beaucoup plus en Christ qu'il n'y a dans le monde. Mais il faut renoncer à ce qui est dans le monde, premièrement. Et cela, ce n'est pas toujours facile. Beaucoup s'efforceront d'entrer par la porte étroite et ne pourront pas. Ce n'est pas nécessairement facile. Cela demande une abnégation, un renoncement. Cela demande un abandon. Il y a un côté négatif là-dedans. Mais c'est pour un plus. C'est pour un beaucoup plus. C'est pour recevoir la vie que Christ a pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29 à 31, « Voici ce que je dis, frères. c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude, sans souci, sans fardeau. L'apôtre Paul nous dit, oui, vous êtes dans le monde. Oui, vous, à quelque part, vous devez user du monde par nécessité. Vous devez acheter, vendre, aller dans le monde, marcher dans le monde, par besoin, par nécessité. L'apôtre Paul nous dit, il faut le faire, oui. Il faut acheter, il faut posséder, il faut faire ces choses. Il n'y a rien de mal, nécessairement, dans ces choses-là. Mais il ne faut pas en faire notre point d'intérêt. Il ne faut pas que ça devienne la priorité de notre vie. Notre intérêt doit être ailleurs. Notre intérêt ne doit pas être dans les choses de ce monde. Notre intérêt doit être dans le royaume de Dieu. Nous devons faire ces choses-là, non par intérêt, par nécessité seulement, par besoin, parce que il nous faut manger, il nous faut vivre, il nous faut travailler, jouer de la vie. Ceux qui ont des femmes et des enfants, il faut qu'ils s'en occupent. Cela est bon en soi, mais il ne faut pas que ça devienne le centre d'intérêt. Notre intérêt doit être ailleurs. Notre amour, notre passion doit être premièrement pour Dieu. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. L'argent, tout ce qui est dans le monde, tout ce que ça donne, le profit, cela ne doit pas devenir notre centre d'intérêt. Dieu peut nous donner des richesses, mais ces richesses-là doivent toujours demeurer sous l'entière gouvernance de Jésus. Ça doit être Jésus qui doit continuer à nous diriger dans toutes choses. Notre centre d'intérêt doit être lui. Et si lui nous demande de s'en séparer, de se séparer, de donner, de se séparer librement de certaines choses, de biens, de richesses, nous devons obéir à notre maître. Nous ne sommes pas liés, attachés à ces choses-là, attachés aux richesses. Notre cœur ne doit pas s'attacher à ces choses-là. Notre cœur doit demeurer attaché à Christ seul. Si on voit des frères plus pauvres, l'apôtre Jean nous dit, on ne doit pas fermer notre cœur, parce que notre cœur ne doit pas être attaché à ce que nous possédons. Nous devons être prêts à le donner à ceux qui en ont besoin, à le donner aux ministres de l'Évangile qui ont tout quitté pour suivre Christ, comme nous dit 3 Jean, chapitre 5, versets 5 à 8. On doit être prêt à être détaché, à vivre ici-bas en intendant des choses du monde, mais non pas en étant des possesseurs de ces choses-là. Nous devons savoir que tout ce qui nous est donné ici-bas ne nous est donné que pour un temps. Notre vrai royaume n'est pas ici-bas. Notre vrai royaume est dans les cieux. Ce que nous possédons en propre est dans les cieux. Ça appartient à Christ. Ça se trouve en Christ. Et si nous voulons rester en lui, demeurer en lui, bien il faut continuer à fermer notre oreille aux étrangers, à tout ce qui est étranger à Christ, à tout ce qui vient du monde, à ne pas se conformer à l'esprit du monde, à être abandonné à Christ, détaché, prêt à faire sa volonté et à le suivre, peu importe ce qu'il nous demandera. L'Esprit de Dieu doit être capable de nous diriger en toutes choses, en tout détail. Nous devons apprendre à suivre l'Esprit de Dieu. Détaché du monde, dépouillé de soi-même, revêtir Christ. En revêtant Christ, voilà notre vraie vie. Voilà notre vrai vêtement. Voilà ce que nous possédons en propre, c'est Jésus-Christ. Passons par la porte étroite, parce que si nous ne passons pas par là, le salut n'est même pas disponible. Le salut n'est même plus disponible. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'Église aujourd'hui, qui croient être sauvés, qui ont reçu Jésus, qui sont nés de nouveau, mais le Seigneur devra leur dire, « Je ne vous connais pas. » Pensez-y. Le Seigneur devra leur dire, « Je ne vous connais pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, parce que vous n'avez pas suivi l'esprit de vérité, vous n'avez pas marché dans le renoncement à vous-même. Vous êtes du groupe Jésus et moi. Vous n'êtes pas du groupe Jésus seulement. Si vous voulez être sauvé, vous devez appartenir au groupe Jésus seulement, où Jésus seulement est maître, et tout étranger est mis dehors. Cela est super important. La porte étroite. Entrons par cette porte. Recevons la vie de Christ. Recevons l'enseignement de son esprit. Ne faisons pas la sourde oreille. Ne laissons pas notre oreille se détourner vers les fables, vers des choses qui sont agréables à l'oreille, mais qui ne sont pas la pensée de Christ. Restons conformes à la parole de Dieu. Restons conformes à l'esprit de Christ. Restons conformes à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Les standards qu'il a mis là pour nous, c'est notre vie. Les standards du monde, on ne doit pas s'y conformer. On doit les rejeter. On doit suivre Christ, s'inquiéter de ce que Christ nous demande, et non pas s'inquiéter de ce que le monde nous demande. Notre centre d'intérêt, c'est Jésus-Christ lui-même, et non pas le monde. Entrons par la porte étroite. Dégageons-nous du fardeau, de tout fardeau qui vient de ce monde. Recevons l'Esprit de Christ, n'ayons pas peur, Christ est le bon berger. Jésus est un bon berger, Jésus est un bon maître. Oui, il est exigeant quelquefois, cela peut sembler difficile, mais ce n'est pas pénible, au contraire. Le bon berger nous conduit dans le droit chemin. Le bon berger nous conduit vers des eaux paisibles, sur les sentiers de la justice. Notre bon berger nous conduit. Il marche lui-même devant nous. C'est la voie que lui-même a suivie. Il a passé par la porte étroite lui-même. Il nous dit, suis-moi. Moi, je passe par la porte étroite. Toi aussi, tu dois passer par la porte étroite. Si tu veux participer à mon salut, participer à mon royaume. Nous n'avons pas le choix. Que Dieu vous bénisse. Amen.